Cargo. Toutes les cultures. Avec Bintou.
Bienvenue dans Cargo et en route pour 2013 avec aujourd'hui des compositions assez futuristes. Il sera question d'opéra du bout du monde, film documentaire autour de la création et la tournée de l'opéra réunionnais Marraine. C'est la réalisatrice Marie-Clémence Paes qui vous le présentera. Il sera question par ailleurs de fusion, de Metallica avec l'artiste Yann Negrit qui lui vous parlera de son album Wide K. Welcome. Bonjour Yann Negrit.
Bonjour Bintou.
Bonjour Marie-Clémence Paes.
Bonjour Bintou.
Votre film se déroule en partie, si je ne me trompe, à Madagascar.
Absolument.
Mais je vous propose d'y aller maintenant avec un artiste que vous connaissez peut-être, Radjer, qui sort un nouvel album. Chanteur, joueur de Vali, c'est parti.
Zami evjava hazin tane Chimana jitsuni rozava buare Mamut kama nimbi sanandri sanandro Amfumba denarat saich fapuse maswandro
Andu rai ke saye Yalla uti tane toy o mate tse e bole Se me sera o ave unda ke lo e rai ke Ti arrovo fa pandalo a vore ti e tue
Testantanya
Vous écoutez Radjer, artiste malgache, chanteur, joueur de Vali avec ce nouvel album Tansaha. Et c'était Nitani, Marie-Clémence Paes. Avec Radjer, nous sommes dans la région où vous êtes rendu, Madagascar, pour ce film.
Oui, parce qu'on a fait une épopée, on a suivi la troupe qui joue l'opéra depuis la capitale, donc qui est sur les plateaux, là d'où vient Radjer, vers Fort Dauphin, qui est sur la côte, la pointe sud-est de Madagascar. Donc on a traversé les plateaux, oui.
Comment présenter votre film ? Donc j'ai parlé d'opéra, de réunionnais. Il s'agit de la troupe du théâtre Volard qui a voulu nous raconter un petit peu l'histoire de la Réunion, en tout cas des premiers habitants.
C'est ça. En fait, on a pris le prétexte de cette création. Donc un opéra qui raconte les origines malgaches des premiers réunionnais et on est allé les suivre dans leur épopée vers le point de départ historique de ces tout premiers habitants et en fait on raconte que au XVIIe siècle sous Louis XIV il y a un bateau qui est parti avec deux Français et 10 malgaches et parmi les 10 malgaches il y avait 3 femmes. Donc on a pris le prétexte de cette histoire qui est racontée dans l'opéra et on est allé vérifier les différentes versions.
Il y a malgaches et des Français, il y a quand même un Français, un certain Payan.
Voilà, il y a deux Français qui étaient partis à l'époque et puis les Français, eux, ils écrivaient. Les Français, ils écrivaient l'histoire. Il y avait le gouverneur Flacourt qui a écrit un énorme bouquin qui est toujours lisible aujourd'hui. Donc l'histoire officielle, etc. Et puis, nous, on est allé aussi chercher l'histoire qui s'est transmise de génération en génération par les Malgaches, par les descendants
qui
des princes.
Qui n'est pas forcément la même.
Eh bien voilà, c'est-à-dire que c'est ce vieil adage africain que tout le monde connaît, c'est qu'une histoire n'est jamais vraiment racontée tout à fait tant que le lion n'a pas raconté sa version de la chasse. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a la version des officiers français, puis la version malgache, et en fait, la troisième version, c'est la version de l'opéra. Donc le film tisse la version du spectateur entre ces trois versions-là. Chacun fait sa propre sauce, mais disons qu'on voulait un peu confronter... voilà les différents points de vue.
Un film ponctué donc par la préparation de cette opéra qui a été composé par Jean-Luc Trulès.
Oui, donc qui est un contemporain, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là, qui est vivant, qui continue à écrire des opéras à La Réunion aujourd'hui d'ailleurs.
Mais il avait déjà pratiqué cet exercice puisqu'on a connu pas mal de comédies musicales, du théâtre Vollard.
Mais c'était son premier opéra pour orchestre symphonique, c'est-à-dire qu'il avait fait effectivement des comédies musicales proche de la musique traditionnelle rayonnaise, le maloya, etc. Mais là, c'est la première fois qu'il s'attaquait à un orchestre symphonique et à des voix lyriques professionnelles. Par contre, ce qui est très intéressant...
C'est la musique que nous sommes en train d'écouter pendant que vous parlez.
Ce qui est très intéressant dans la musique de Jean-Luc, c'est qu'il a vraiment joué complètement le métissage. C'est-à-dire qu'il a inclus dans l'orchestre symphonique classique des instruments typiquement réunionnais.
Extrait de ce film sur Cargo, l'opéra du bout du monde.
Le spectacle démarre, hein ?
C'est vrai ? Et la musique ?
Où sommes-nous ? Vous situez l'opéra dans votre film ?
On est dans cette scène où les gens de Fort-Dauphin voient la pièce, l'opéra, et voient un opéra pour la première fois. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les gens de Fort-Dauphin, donc cette petite ville où vraiment au bout du monde, physiquement au bout du monde, ils n'ont eu absolument aucun préjugé, c'est-à-dire que l'opéra, pour eux, c'était quelque chose de tout à fait naturel, normal. Et ils sont complètement rentrés dans l'histoire. C'est-à-dire que quand le lendemain, on a demandé à plusieurs personnes « Alors, comment vous avez trouvé ça ?» Nous pensant « Oh là là, cette musique contemporaine et tout. » Les gens nous ont dit « Ah, mais vous savez, moi, ma voisine, elle a vécu la même histoire. Elle est tombée enceinte, elle aimait deux hommes, on n'a pas su de qui c'était. » C'est-à-dire qu'ils sont rentrés complètement dans l'argument.
Je parlais, Marie-Clémence Paes, de composition futuriste pour cette opéra qui intègre aussi certains instruments traditionnels à certains moments.
Oui, alors Jean-Luc Trulès a mis dans sa partition des morceaux pour Vali, donc ce bambou que joue Radzer d'ailleurs, ce bambou typiquement malgache à cordes. Il y a aussi l'accordéon dans cet orchestre. Alors je sais que beaucoup de gens du conservatoire de La Réunion notamment criaient à l'hérésie en disant « mais enfin, on ne met pas un accordéon dans un orchestre symphonique ». Et en fait, c'est magnifique, c'est très très bien intégré.
Et puis c'est la petite French touch peut-être.
La French touch, un peu même franchouillarde même, on peut dire, dans la composition.
Nous écouterons peut-être un jour Yann Negrit faire du métal Vali par exemple, puisque lui c'est un spécialiste des cordes.
Pourquoi pas, mais plutôt du maloya, un mélange entre le maloya et le ka. J'adore le maloya en fait.
Lui qui connaît vraiment bien, qui a longtemps fait partie de l'orchestre Dom Tom Folie, donc notamment à la Réunion, ce grand concours qui a lieu chaque année de sélection d'artistes. Là on écoute un extrait de votre disque, c'est Tambour Fighting du White K. Yann Negrit. un extrait de Tambour Fighting, extrait donc de cet album White Cat de Yann Negri. Dans Cargo aujourd'hui, des créateurs qui nous viennent d'un bout du monde, le 20e arrondissement parisien. Mais attention, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus riche que cela. C'est la France d'aujourd'hui. C'est Marie-Clémence Paes qui a fait un film sur le Nord-Est et, brésilien, ou encore sur le groupe Malgué, Achma et Léo. Et c'est Yann Negri qui donc a pris la guitare à Paris.
Exactement. Exactement, j'allais... Alors, à l'époque, j'ai commencé la guitare un peu en secret. J'allais chercher la guitare en dessous du lit de mon père, parce qu'il ne voulait pas que je fasse de guitare.
Et pourtant, le papa est musicologue, s'intéresse à ce secteur.
Mais il voulait que je sois pianiste, parce que pour lui, le piano est l'instrument maître. Donc, et je l'ai compris après, plus tard. Sur le moment, voilà, j'étais en plus dans l'adolescence, je ne comprenais pas pourquoi m'empêcher de faire la guitare, mais j'ai compris après, par la suite. En tout cas, voilà, ça a commencé un peu comme ça et j'apprenais un peu en secret à jouer. J'allais chercher la guitare en dessous de son lit et voilà.
Et il y a eu des études très sérieuses, hein, non ? Il y a eu du conservatoire ?
Il y a eu du conservatoire pendant 10 ans. Je commençais à l'âge de 6 ans et j'ai arrêté à 16 ans. Mais en parallèle, à partir de 14 ans... j'ai commencé la guitare et là c'était
rock'n'roll.
Voilà, rock'n'roll, c'était Nirvana, Red Hot Chili Peppers, c'était Jimi Hendrix.
Le White K dans tout cela, enfin nous l'avons écouté. K, quand on parle de K, on pense à la Guadeloupe, hein, c'est le gosier. Hein,
exactement,
la famille,
oui. C'est ça, exactement. En fait, ce mélange est venu progressivement. En fait, c'est la résultante de mon parcours. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé la guitare avec du rock, avec du métal.
Et puis vous êtes dit, il faut que je trouve ma propre identité.
C'est même pas que je me le suis dit, c'est qu'en fait, j'ai toujours, à la maison, on a toujours écouté plein de styles différents de musique. Mon père, il adorait George Benson, Tabou Combo, tous les styles.
Et le cas dans tout cela ?
Et le cas, en fait, dans tout ça, c'est un de ses amis qui faisait partie du groupe Horizon, qui un jour lui a ramené le nouvel album d'Horizon. À l'époque, c'était en 96. Et quand j'ai écouté ça, j'ai
révélation.
Juste, voilà, juste halluciné.
Yann Negri a dit désormais, pour moi, ce sera le cas. Mais en tout cas, c'est tout à fait réussi.
Merci.
On écoute Pat Jambel.
Oui.
Vous nous le présentez, ce morceau ?
Pat Jambel, c'est... c'est juste parti en fait, du rythme. En fait, le rythme a inspiré toutes les mélodies que vous allez écouter. Il y a un peu de tout dans ce titre. Il y a aussi du classique. Voilà, c'est un morceau composé dans l'idée d'une suite classique, tout simplement.
Pat Jambel avec Yann Negri dans Cargo, c'est pas vraiment le zouk traditionnel ou des musiques qui décoiffent plutôt, je parlais de fusion.
C'est clair, en fait oui on est clairement pas dans un cliché particulier, en fait c'est J'ai eu un parcours atypique et je voulais que cet album soit le reflet de ce parcours.
Vous avez trouvé votre public ou c'est en train de se faire?
Ah oui, carrément. C'est vraiment en marche depuis un moment. Ça fait quand même 6 ans que je fais des scènes assez régulièrement dans la capitale ou même de toute façon, j'ai fait déjà des festivals en Martinique et en Guadeloupe, à Marie-Galante aussi. Et voilà, c'est en marche. Donc, j'ai même été jusqu'à New York avec l'album, le faire écouter à...
En fait, il faut savoir oser. On est souvent surpris des réactions du public. C'est ce que Marie-Clémence Paes expliquait pour l'Opéra du Bout du Monde.
C'est exactement ça,
Je pense qu'il y a même... tu dois probablement vivre la même chose. C'est-à-dire que quand on explose les étiquettes... C'est très difficile, mais le public est tout à fait prêt à recevoir. Et l'avantage d'exploser des étiquettes, c'est qu'en fait, on peut réunir des publics très différents dans une seule chose. Et là, je sens exactement ça dans ta musique aussi.
C'est effectivement ce qui m'a interpellé dans ce que j'ai écouté de la pièce. Non, c'est exactement
Marie-Clémence, dans votre film L'Opéra du Bout du Monde, en fait, on ne voit pas l'opéra. On voit comment les gens s'intéressent à l'opéra.
C'est ce que vous avez choisi. On ne voit pas l'opéra parce que l'opéra, bon, on pense vraiment que c'est quelque chose qui doit se vivre. C'est vraiment du spectacle vivant. Donc, on savait que c'était un défi impossible de montrer l'opéra. On savait aussi, César et moi, qu'on s'arrêterait à partir du moment où il montrait sur scène. Donc, tout ce qui nous intéressait, c'était tout ce qui précédait. D'abord, la recherche, pourquoi écrire sur cette histoire, c'est le voyage, c'est monter un opéra qui est quand même un travail colossal. Quoi.
Et filmer la musique, c'est aussi un travail assez particulier.
C'est un travail particulier, c'est-à-dire parce que c'est transmettre la musique.
Je pense à ça parce que souvent sur les chaînes, enfin les auditeurs ou les spectateurs se plaignent de ne pas avoir assez de musique à la télé. Et puis du côté des responsables de programme, on vous dit « Ah oui, mais ça ne fait pas assez d'audimat. »
Voilà, bon. Puis il y a le problème de la durée. C'est-à-dire que filmer la musique, enfin en plus quand c'est là, dans ce cas précis, c'est filmer un opéra, bon ben ça dure plus d'une heure. Hein. Un opéra, c'est bien plus que 52 minutes. Donc voilà. Et filmer la musique, comment dire, la musique, ça ne se voit pas. C'est paradoxal, hein. La musique, ça ne se voit pas, mais...
Ça s'écoute avant tout.
Ça s'écoute et ça vibre, surtout. Enfin, moi, je crois que la musique, c'est quelque chose, c'est de l'émotion pure, quoi. Et un film sans musique, c'est assez rare que l'émotion soit aussi forte qu'un film avec musique.
Yann, vous avez eu l'occasion de composer pour des films. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sollicités ou qui pensent à ce nouveau type de revenu aussi.
Effectivement. Bah en fait, de toute façon, quand on écoute mon album, c'est de toute façon un album qui a été composé aussi dans cette idée-là. J'adore la musique de film, vraiment.
De pouvoir montrer vos talents aussi, et puis peut-être inspirer des réalisateurs ou intéresser des réalisateurs.
Aussi, exactement, aussi. Et je pense que j'y viendrai, je suis dans cette démarche de toute façon.
À bon entendeur. Salut, c'est Yann Negrit avec cet album White Ka. Et puis, alors, l'Opéra du Bout du Monde, on espère pouvoir le voir. Il sortira en DVD dans quelques mois, je suppose.
Oui, voilà.
Il est sur les écrans et c'est plutôt intéressant car ça nous apprend. Il y a ce road movie donc, où l'on suit cette troupe qui se rend à Fort Dauphin, c'est ça,
dans le sud de Madagascar.
Voilà. Mais on rencontre plein de monde. Vous nous livrez plein de l'histoire et puis de la culture malgache aussi.
Oui, voilà, parce que l'histoire n'est pas faite que de faits historiques et sanglants et de guerres. L'histoire est aussi faite d'histoires magiques. Il y a eu des histoires magiques auxquelles vraiment ces officiers ont cru, ont été confrontés. Donc c'est toutes ces petites histoires dans l'histoire, c'est aussi la musique, mais c'est aussi le voyage. C'est beaucoup le voyage.
Un film à découvrir donc actuellement à Paris, à l'Espace Saint-Michel, en DVD je pense bientôt, et puis je pense que vous le présenterez à La Réunion ou à Madagascar.
Alors Madagascar c'est prévu vers le mois d'avril, et puis à La Réunion, dès que possible, nous mettrons de toute façon toutes les dates de programmation en temps réel sur opéradubouddumonde.com.
Puis pour ceux qui sont à Paris, à noter sur votre agenda les 7 et 8 décembre à Fricolore, une bande à pied de Pétionville, des Haïtiens avec des jazzmen et des musiciens africains. Et le 8 décembre, Christine Salem de La Réunion avec Moriarty, un groupe folk parisien. Donc une création dans le cadre du festival
Africolor à la MC93 de Bobigny. C'était Cargo, joyeuse fête.
Merci.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Et merci à Jean-Marc Thibaudier pour ce cargo et tous ces cargos de l'année passée, ainsi qu'à Diane Conné. Salut.
Merci.